1, 1, 1. OK, j'ai du son. Pas de tech, mais j'ai du son, fait qu'on est correct. Bonjour tout le monde, ça va bien? Hey, crowd! Ce matin, on va terminer, je vais terminer 10 minutes avant la fin. Comme vous voyez, on a installé le swimming pool, on a des baptêmes ce matin, donc c'est spécial. Puis on va juste s'adapter un petit peu à cet horaire-là. J'ai un petit exercice pratique à vous faire faire, mais je vais attendre d'avoir quelques étudiants de plus. Vous avez les notes. Ce matin, on touche à une des doctrines les plus difficiles à comprendre, vraiment, bien qu'elle ne soit pas mystérieuse. Hein, vous m'entendez, vous nous entendez parfois parler des mystères dans la Bible. Par exemple, comment Dieu peut-il, justement, on va parler de la toute-puissance de Dieu, mais Dieu est souverain, donc il est au contrôle de toutes choses se réalisent selon ses décrets, puis en même temps, nous, on est responsables de nos péchés. Là, on a comme un conflit intellectuel, on dit le libre arbitre là-dedans, tout ça. Il y a une part de mystère dans ça, d'accord? Ça, c'est une doctrine où il y a un mystère, c'est difficile à comprendre. Il y a la Trinité, c'est mystérieux. Les doubles natures de Christ, il est à la fois Dieu, à la fois homme. C'est mystérieux, quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Ce matin, on ne parle pas d'une doctrine qui est mystérieuse. On parle de la toute-puissance de Dieu. Le défi, ce n'est pas de comprendre le concept, c'est de mesurer ce que ça implique. Parce qu'on parle d'un être tout-puissant, là, ça dépasse tout point de comparaison qu'on est capable de trouver. Nous définissons toujours la puissance par un comparatif, hein? On se compare avec quelqu'un d'autre, puis on dit, ben, moi, je suis moins fort, je suis plus fort que lui. Mais lorsqu'on arrive à Dieu, il n'y a pas de point de comparaison. Donc, ce n'est pas que la doctrine est mystérieuse, mais elle est difficile à saisir. Et pourtant, c'est une des doctrines les plus précieuses pour vivre en paix dans ce monde. C'est une des doctrines les plus précieuses pour vivre la joie dans ce monde, pour vraiment marcher par la foi. On va aller ensemble dans la prière. On va parler de l'omnipotence de Dieu. Père éternel, on vient dans ta sainte présence pour t'adorer parce que tu es Dieu. Toi seul es Dieu, tu es incomparable. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Tu es autre, Seigneur, et un des aspects de cette « otherness », comme on dit en anglais, c'est ta toute-puissance, Seigneur. Tu es tout-puissant. Et en ceci, tu es, encore une fois, singulier, unique, incomparable. Donne-nous de mieux saisir quand même, Seigneur, ta personne. Parce qu'il y a dans cette doctrine tellement de réconfort, de source d'émerveillement, d'adoration, de réjouissance, Seigneur. Alors, aide-nous à progresser ce matin dans notre compréhension et aide-nous à progresser, Seigneur, dans notre manière de s'approprier ça pour nous, pour que ça change notre quotidien, Seigneur. On vit dans une société qui est super anxieuse. C'est tellement ironique parce qu'on a peut-être moins de raisons que tous les hommes qui nous ont précédés. Et pourtant, c'est une réalité. Ben, les chrétiens devraient être les moins anxieux de tous les êtres humains. Alors, conduis-nous, Seigneur. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Vous avez les notes à l'entrée si vous voulez les prendre. Je vais avoir besoin de quelqu'un qui est prêt à faire circuler un outil pour moi. Vous connaissez ça? Connaissez ça? Moi, je ne suis pas très fort. Je ne suis pas très, très fort, mais je vais vous mettre au défi juste de réussir à faire ça parce que c'est pas un super léger. D'ailleurs, ma main gauche est moins forte que ma main droite. C'est plus difficile. Mais j'aimerais ça que quelqu'un fasse circuler ça et que vous essayez de le fermer avec vos mains, sans vous blesser, là, s'il vous plaît. Il y en a peut-être qui pourraient se blesser avec ça. Fait que Lucie est notre premier cobaye. Merci. Puis pendant que vous êtes en train de faire ça, comparez votre force à la mienne. Vous avez vu comment j'arrivais à faire ça? Je fais de l'escalade. Si je n'arrive pas à faire ça, là, je ne monterai pas haut ou je vais tomber vite. Ça, c'est certain. Je n'ai pas vraiment le choix si je veux grimper. Mais pourquoi est-ce que je fais circuler ça? C'est parce qu'on parle de la toute-puissance de Dieu. Puis nous, on définit la puissance toujours avec des points de comparaison. On a besoin d'un point de comparaison. C'est comme ça qu'on évalue ce qui est grand. T'sais, si tu penses à la chaleur, ça serait quoi la chaleur comme l'image de la chaleur ultime qu'on pourrait trouver? Le soleil. T'sais, Évidemment, moi, j'ai pensé au soleil. Tu sais, le soleil, c'est comme l'image de la chaleur ultime. Mais l'expression de cette chaleur-là, comme en termes de puissance, hein, parce que c'est moyennement puissant, c'est la plus grosse source d'énergie qu'on connaît, le soleil. Mais c'est, Dieu est incomparable comparé au soleil. Comprenez, le soleil n'a pas fini d'être petit dans sa puissance à côté de Dieu. Je ne peux pas dire que le soleil est comme une fourmi en comparaison avec Dieu. C'est beaucoup trop petit encore. Comprenez? Donc, il n'y a pas de point de comparaison parce qu'on parle de la toute-puissance de Dieu. Et notre défi à nous, ça circule mon truc? Est-ce que vous êtes plus fort que moi ou vous êtes moins fort que moi? Ça va, vous faites ça facile? Mais le problème, c'est que lorsqu'on arrive à la toute-puissance de Dieu, il faut qu'on arrête de comparer. Je dois laisser aller mon imagination. C'est là qu'on a commencé à parler de ça. Hein? Dieu nous a créés avec l'imagination. On peut s'en servir pour toutes sortes de péchés, mais l'imagination est évoquée. Dieu appelle notre imaginaire lorsqu'il décrit des choses dans la Bible et qu'on comprend en le lisant que c'est plus grand que tout ce que je lis. D'accord? Si je vous explique 2 plus 2, ça fait 4, vous êtes à l'école, tout ça, vous comprenez les chiffres. Une fois que vous avez saisi le concept, l'imagination, on ne fait pas appel à l'imagination. D'accord? On comprend un concept, c'est comme fermé. Il y a pas, je ne vais pas me mettre à faire des rêveries sur tout le potentiel de 2 plus 2 fait 4. Là. Une fois que j'ai compris, ça s'arrête là. Mais quand je lis la Bible, ça ne s'arrête pas là. C'est toujours un texte qui est là pour évoquer. Pas que je parte à la dérive, là. Pas que je sois en train de me créer une image fausse de Dieu. Ce n'est pas de ça que je parle du tout. C'est que Dieu a choisi des mots pour se présenter à nous, lui qui ne peut pas être contenu dans des mots, parce qu'il est au-delà des mots. Dans toutes les dimensions de sa personne, son amour ne se résume pas à des mots. Et c'est pourquoi il a fait en action à la croix. Mais là, quand je commence à explorer la croix, je réalise que c'est tellement plus riche que ce que j'arrive à comprendre, de réaliser que le Dieu trinitaire, parfaitement en harmonie, tu sais, pour moi, le plus grand mystère de la Bible, c'est la déclaration de Jésus. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est impossible que Dieu l'ait abandonné. Dieu est en parfaite unité tout le temps. Oui, mais à ce moment-là, Jésus est fait péché, donc qu'est-ce qui se passe? Là, je prie avec un mystère. Et donc, mon imagination est utilisée, Dieu nous a créés avec ce potentiel-là, il nous donne des mots qui comme nous lance sur une voie d'adoration. Puis lorsque j'arrive dans la question de l'omnipotence de Dieu, bien, il faut que je me dise, OK, là, j'ai mon plus grand point de comparaison. Je me dis, OK, il ne sert à rien. Il est inutile. Il est inutile parce que Dieu est au-dessus de ça. C'est pour ça que je vous dis, le soleil, oubliez ça, c'est rien. Ce n'est pas un bon point de comparaison, le soleil avec Dieu. Si je veux dire, bien, OK, mais Yannick, moi, comparé au soleil, tu sais, Dieu comparé à moi. Oui, mais Dieu comparé au soleil, ça ne tient pas la route. Le soleil, c'est rien comparé à Dieu. En tout cas, c'est vraiment une doctrine fascinante et très, très belle. Alors, on attaque ça ensemble, on va dans les notes. Page 1, thème central, Dieu est absolument et infiniment puissant. Il crée, il gouverne et il ressuscite par la seule puissance de sa volonté. Cette omnipotence, donc la toute-puissance de Dieu, il est potentiellement omni, total, n'est pas une abstraction théologique, mais l'espérance concrète et quotidienne de ses enfants. Tout ce cours-là vise une chose, c'est que la théologie transforme notre expérience du quotidien. C'est ça l'objectif du cours, d'accord? En principe, vous n'apprenez pas de nouvelles doctrines. En tout cas, je vous vois, là, puis je sais que la majorité d'entre vous êtes chrétiens depuis quelques années. Tout ça va bien, t'en forme. Vous avez vu, il a voulu se comparer avec moi. C'est intéressant. Lorsqu'on arrive à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? C'est intéressant, hein? Le but du cours, c'est vraiment que la théologie ne soit pas quelque chose... Si à la fin de ce cours-là, vous vous dites, « Ah, la théologie, c'est pour les intellos. » On va vous manquer notre coup, je vous le dis, sur toute la ligne. La théologie, c'est pas pour les intellos, c'est pour les chrétiens. Que tu sois intello ou non. L'objectif global du cours, amener l'étudiant à comprendre bibliquement la doctrine de l'omnipotence de Dieu et à apprendre à vivre chaque dimension de son existence à la lumière de la puissance créatrice, souveraine et rédemptrice de Dieu. Donc, les objectifs définis bibliquement, l'omnipotence, expliquer la distinction créateur-créature en lien avec la puissance, montrer comment la création et la résurrection révèlent la toute-puissance de Dieu. Paul Tripp prend ces deux éléments-là comme l'illustration la plus grande de la puissance de Dieu. Les deux meilleures illustrations bibliques de la puissance ou de la toute-puissance de Dieu. Appliquer la doctrine de l'omnipotence aux luttes concrètes de la vie quotidienne, identifier les mensonges de l'autonomie et de l'autosuffisance, interpréter les épreuves à travers le prisme de la puissance souveraine de Dieu, développer une dépendance confiante envers la puissance paternelle de Dieu. Je passe à la page 2. Dieu est omnipotent. Vous m'arrêtez quand vous voulez. Commentaire, question, puis je pense qu'on aura peut-être un micro. Si jamais c'est possible d'avoir un technicien à la console. Définition théologique. Dieu est omnipotent, tout puissant en puissance. Il peut faire sans effort tout ce qu'il veut à tout moment et en tout lieu, et il choisit d'exercer sa puissance. Quand j'étais en train de me préparer pour la leçon, je me disais, parce que Paul Tripp commence en parlant du fait que il aime écrire, puis les mots sont puissants, mais là, son défi dans ce chapitre-là, c'est que les mots sont insuffisants. Puis pendant que j'étais en train de lire son raisonnement, je me disais, je pense que dans ce que Dieu nous a donné comme capacité, ce qui ressemble le plus à la toute-puissance de Dieu, et vous allez voir là que c'est vraiment pas parfait comme illustration, mais je pense que ça tient la route. Je pense que c'est notre imagination. Je pense que c'est notre imaginaire qui, en nous, comme attribut, comme qualité, ressemble le plus à la toute-puissance de Dieu. Je m'explique. Vous allez me dire, avec l'imagination, on ne fait rien, on écrit des romans. Un roman, ce n'est pas la réalité, c'est la fiction. Oui, mais ce que Dieu pense et ce que Dieu imagine existe. C'est pour ça que je dis, quand tu lis un roman fantastique ou quoi que ce soit, je suis en train de relire un roman jeunesse, une série Ewilan, puis fascinant, super bien écrit, vraiment une plume incroyable, je suis transporté dans un monde imaginaire, mais je suis transporté dans un autre monde. Cette trilogie-là, je l'ai lue avec mes enfants, puis ça doit faire 3 fois ou 4 fois que je la lis, là. Fait que moi, quand j'entre dans cet univers-là, je suis complètement dans un autre univers. Dieu fait ça dans le réel à partir de sa pensée. Juste en pensant l'univers, bon, il s'est donné un petit peu plus de trouble que ça, il a dit. Il a ajouté à sa pensée des mots. Ça s'est arrêté là. Et lorsqu'on écrit un roman, lorsqu'on écrit un conte, une histoire, peu importe, c'est ça qu'on fait, hein? On imagine puis on y met des mots. Puis là, on articule ça. Et donc, Dieu, sans effort, regardez la définition, tout ce qu'il veut à tout moment et en tout lieu où il choisit d'exercer sa puissance, ça s'accomplit. Il n'y a qu'à le vouloir et ça se réalise. Dire que Dieu est omnipotent signifie sa puissance est illimitée. Il agit sans effort. Rien ne peut entraver sa volonté. Il est absolument unique en puissance. Est-ce qu'il y en a ici qui ont développé une habileté que vous pouvez faire sans réfléchir? Par exemple, lorsque tu apprends la musique, tu vas pratiquer une pièce de musique jusqu'à temps, puis là, tu découpes ta pièce. Hein? Esther enseigne la musique, là, donc je l'ai vu beaucoup, puis j'ai fait quand même 3 ans de piano, fait que j'ai une petite idée. Là, tu découpes ta pièce. Là, tu vas prendre 4 mesures. Tu vas les pratiquer jusqu'à temps que tu les joues sans réfléchir. Puis que l'émotion que tu veux transmettre à travers ton piano, ton violon, tout ça, se réalise sans même que tu réfléchisses. En création ou en créativité, on appelle ça être dans un flow. Si vous avez déjà fait des arts martiaux ou n'importe quoi, on apprend des chorégraphies, c'est la même chose. C'est presque la même chose que conduire. Moi, j'aime énormément conduire. Le jour où j'aurai plus le droit de conduire parce que mon ordinateur va conduire à ma place, je vais être tellement malheureux. J'aime conduire. Mais c'est... Moi, je peux partir puis être ailleurs en même temps que je suis en train de faire ça. C'est complètement fou. C'est devenu une seconde nature. Regarder dans le miroir, faire mes angles. Puis là, je vois toutes les gens qui n'ont pas appris ça. Là. Et qui conduisent mal. Ils ne font pas d'angle mort. C'est évident. Ils sont collés sur la voiture d'en avant, tout ça. Dieu est dans un état comme ça, de flow constant. Fait que pensez à ce que vous faites le plus naturellement, sans réfléchir. Peut-être que vous allez me dire, c'est respirer. Avez-vous pensé à votre respiration dans les 10 dernières minutes? Moi, personnellement, non. T'sais, à moins que vous fassiez de l'emphysème, là, en principe, vous n'y avez pas pensé. Dieu est dans cet état-là constant lorsqu'il crée. Nous, on est toujours face à de la résistance. Puis ce qui fait qu'on entre dans un état de flow, c'est qu'on a mis tellement d'efforts que là, c'est parfaitement maîtrisé. C'est vrai? Tu sais, tu joues une pièce de musique, je ne sais pas, peu importe ce que vous faites de très, très bien sans réfléchir, ça a pris du temps pour y arriver. Là. Tu ne t'es pas levé un matin et tu dis, « Bien, moi, aujourd'hui, je vais devenir un joueur de golf. » Non, non. Ça prend des heures de pratique. Dieu est dans un état de flow constant lorsqu'il crée. Parce qu'il n'y a pas de résistance. Il est tout puissant. Il conçoit la chose est. Il agit sans effort. Rien ne peut entraver sa volonté. Il est absolument unique en puissance. Alors, Genèse 18, 14. Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Donc, ce que Dieu déclare sur lui-même, c'est qu'il dit, attends, est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop difficile pour Dieu? Jérémie 32, 17. « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta puissance et par ton bras étendu. » Encore une fois, « rien n'est trop difficile pour toi. » Donc, ce verset-là n'est pas en train de dire « Seigneur, avec effort, tu as créé l'univers. » Non, non, ce n'est pas ça que ça dit. Tout ce que ça dit, c'est « grâce à ta puissance, tu as créé l'univers et il n'y a rien qui est trop difficile pour toi. » Ça n'existe pas. Dieu n'est pas en train de consommer. Donc, quand Dieu dit qu'il s'est reposé le septième jour, vous comprenez qu'il n'avait pas besoin d'un break. Là. C'est vraiment une image où Dieu arrête, contemple ce qu'il a créé, puis dit c'est bon. Il est en train de nous parler du concept de repos, puis il est en train de préparer la venue de Jésus. Littéralement, avec le septième jour, là, Jésus est notre sabbat, Jésus est notre repos. Donc, on est dans ça. Là. Mais Dieu ne s'est pas dit, oh boy, ça me prend un break, on continue après. Non, parce que c'est Dieu, nous disent les décrets dans la parole, c'est Dieu qui soutient l'univers. Fait que même lorsqu'il se repose, Dieu est encore en train de soutenir tout l'univers. Mais ça ne lui demande aucun effort. C'est simplement l'expression de sa volonté. Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Et le défi, lorsqu'on va arriver dans la pratique, c'est que nous ne vivons pas souvent on ne vit pas comme si cet être-là voulait absolument notre bien. Si cet être-là qu'on vient de décrire veut absolument ton bien, il t'est favorable, il t'a choisi, tu fais partie de sa famille, mais ça change toutes tes journées. Tu pourrais être dans un camp de concentration nazi, ça change ta journée. Et il y a des chrétiens qui ont témoigné de ça exactement. Alors, la distinction entre le Créateur et la créature. Toute créature est limitée. Quand on dit qu'on est des êtres finis à côté d'un être infini, c'est que c'est facile de faire le tour de Yannick. Dans tous les sens, physiquement, mais mentalement, c'est pas long de faire le tour de Yannick. Là. On est en train de créer des machines qui dépassent de loin Yannick, vous comprenez? Pas encore dans tous les domaines, mais c'est ça qu'on est en... C'est pas dur de dépasser Yannick, là. Émotionnellement, c'est pas dur de dépasser. Je suis un être fini. Il y a des limites à moi. Dieu est un être infini. Tout ce qui appartient au domaine de la création est marqué par la faiblesse, l'incapacité, les limites. Le soleil a des limites. Le soleil ne réchauffe pas tout l'univers. Vous êtes d'accord? Puis proportionnellement, dans le système solaire, les planètes ne sont pas toutes aussi réchauffées par le soleil. Parce que bien que pour nous, il y a de l'air tout puissant, il ne l'est pas du tout. Et la portée de sa chaleur a des contraintes. Donc, tout dans l'univers a des contraintes, des faiblesses, des limites. Dieu est au-delà de ça. Une des manières les plus énigmatiques pour moi de l'illustrer, c'est que Dieu est hors du temps. Le temps n'existe pas pour Dieu. Il existe pour Dieu parce que Dieu l'a créé, mais lui-même vit hors du temps. Donc, Dieu m'a sauvé, il est en train de me sauver, il va me sauver, il est en train de me transformer, ma sanctification, tout ça. C'est hors du temps complètement. Pour Dieu, c'est. C'est ça que les Écritures nous disent. Dieu dit la chose est, mais Dieu est hors du temps. Dieu est absolument unique. Dire que Dieu est omnipotent, c'est dire que Dieu est Dieu. Et donc, cet attribut-là, c'est intéressant, il y a certaines qualités de la personne de Dieu que les philosophes, même athées, lorsqu'ils commencent à philosopher sur « et si Dieu existait », quand ils le définissent, plusieurs des attributs que la Bible reconnaît à Dieu, ils vont arriver aux mêmes conclusions. Parce que si Dieu existe vraiment, il est omnipotent. Autrement, il n'est pas Dieu. Il est un sous-Dieu, il est une forme de Dieu, il est une divinité grecque, il est quelque chose, mais il est une créature, il n'est pas le créateur. Et donc, même ceux qui ne croient pas dans l'existence de Dieu, lorsqu'ils commencent à réfléchir, à conceptualiser, à imaginer, « OK, mais si Dieu existait, il faut qu'il soit infini. » Lorsque je parle avec mon ami qui est hindou et qui veut bien mettre Jésus sur la tablette à côté des autres divinités, toutes les divinités qu'elle conçoit ne ressemblent pas à Dieu. Ce sont tous des faux dieux. Un philosophe comprendrait que ce sont tous des faux dieux simplement parce que ben, tu as un dieu pour ceci, tu as un dieu pour cela, tu as un dieu. Non, il y a un dieu pour tout. C'est Dieu. Il est inclassable. Et donc, si Dieu n'est pas omnipotent, s'il n'est pas tout-puissant, il n'est pas Dieu. Dire que Dieu est tout-puissant, c'est dire que Dieu est Dieu. C'est pour ça que je vous dis, ça nous challenge nous, parce que je pense que souvent, on fait nos dévotions matinales, puis on est en communion avec Dieu, mais on ne prend pas conscience qu'on est en communion avec Dieu. On prend juste certains aspects de sa personne, puis on dit, « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. » Mais Dieu t'a déjà promis qu'il va t'aider. Tu es son enfant, tu fais partie de sa famille, il est avec toi tous les jours. « Seigneur, ne m'abandonne pas. » Mais il ne t'abandonnera pas, il l'a promis. Puis c'est correct de le prier, mais comme dans les psaumes, ça devrait se résorber, cette anxiété-là devrait se résorber par, « Mais bien sûr, Seigneur, je suis en paix parce que tu es Dieu. Tu es avec moi, tu m'as promis ta faveur. » Dire que Dieu est omnipotent, c'est dire que Dieu est Dieu. Il n'existe aucune analogie suffisante pour comparer sa puissance. Et là, ce que Paul Tripp fait, moi j'aime beaucoup ça, il dit, bon, mais les deux plus grandes manifestations de la puissance de Dieu, c'est la création puis c'est la résurrection. La création, parce que Dieu crée ex nihilo, à partir de rien. Tantôt, je disais que l'attribut humain, je pense, qui ressemble le plus à la toute-puissance de Dieu, c'est ironique parce qu'en même temps, c'est comme zéro puissant, là, l'imaginaire, ce n'est pas dans le réel. Mais c'est cette idée-là qu'on a une imagination, et donc on peut concevoir des mondes, des choses. Mais quand on fait ça, nous, un créateur, un artiste humain, crée toujours à partir de quelque chose. Je regarde une fleur, je regarde un coucher de soleil, ça m'inspire une toile, un tableau, je m'en vais avec ça. Même ceux qui vont dans l'abstrait, puis « Ah non, attends un petit peu, tu pars avec des couleurs, tu pars avec des formes, tu dis « Cette couleur-là crée une émotion en moi. » Cette couleur-là, c'est qui l'a faite? La couleur, c'est pas toi, c'est Dieu qui l'a fait. » Et donc, Dieu, lui, crée ex nihilo. Avant que l'idée de l'univers existe, Dieu l'a pensé. Avant que l'univers existe, Dieu l'a créé. Sans aucune matière, Dieu a créé l'univers. Genèse 1, 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu l'a conçu, il a dit, allez, ça finit là. Ça ne nous dit pas que la lumière vient de quelque part d'autre que de la pensée de Dieu. Créé par la parole et la forme la plus élevée de puissance. Il existe peu de meilleures définitions de la puissance toute puissante que le pouvoir de créer un monde sans aucune matière première. Et c'est pour ça que je dis, même lorsque les créatifs, les artistes créent, ils ne créent jamais ex nihilo. Pas simplement à cause de la matière, parce qu'on pourrait aller dans le domaine des idées, mais même dans le domaine des idées, c'est un réagencement d'idées qu'on fait. Est-ce que vous suivez ce concept-là? Ça va? Quand tu t'écris un roman, tu pars d'un récit, puis tu réagences des choses, mais tu t'inscris dans l'univers que Dieu a créé. Puis lorsque tu t'en vas explorer l'univers que Tolkien ou C.S. Lewis ont créé, c'est tout des référents à l'univers que Dieu a créé. J'imagine un monde fantastique, mais ce monde-là, pour le comprendre, il est constamment en référence avec ce que Dieu a créé. Dieu, lui, crée ex nihilo. L'idée de la créativité, de la création de l'univers, c'est lui qui l'a eu, ça finit là. Job 38, 39, je trouve ça vraiment brillant que Paul Tripp soit allé là. Il dit, comment est-ce que Dieu règle le problème moral, le combat spirituel dans lequel est engagé Job, c'est simplement en lui rappelant qu'il est tout-puissant, que Dieu est tout-puissant. C'est vraiment confondant. Hein? La première fois que tu lis Job, je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment que moi, mais tu sais, Job vit une crise existentielle absolue, il est dans la souffrance, il est mal entouré, il est bouleversé, il est en combat, il voudrait s'en prendre à Dieu parce qu'il dit, Seigneur, comment est-ce que tu pourrais demander plus d'intégrité à un être faible comme moi? Je t'ai donné tout ce que je pouvais, puis à en juger par la souffrance que tu permets dans ma vie, c'est comme si ce n'était pas suffisant. Je n'arrive pas à comprendre. Et ce que Dieu fait au chapitre 38-39, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, étais-tu là? Étais-tu là? C'est vraiment fantastique parce qu'on voit ici comment la doctrine de l'omnipotence de Dieu peut nous accompagner, venir nous secourir dans nos combats spirituels les plus intenses. Je pense qu'on va être d'accord pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici qui ont vécu la souffrance de Job. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est assez extrême. Hein? Comment est-ce que Dieu le console? Parce que Dieu le console. À la fin, Job dit, je me repens. C'est bon, Seigneur. C'est bon, je pensais que je te connaissais, mais là, je t'entends. Là, je t'entends, puis je m'arrête. Et comment Dieu le fait? C'est avec une question. Étais-tu là? Étais-tu là quand j'ai conçu l'univers? Donc, Dieu console, secourt spirituellement Job dans les plus grandes épreuves de sa vie, au moment de sa plus grande détresse, avec la doctrine de la toute-puissance de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, et c'est pour ça que je priais tantôt, et quand je prie, quand je dis dans la prière, Seigneur, les chrétiens devraient être les moins anxieux des hommes, il faut que vous sachiez que moi, j'ai des problèmes digestifs depuis l'âge de 22-23 ans. C'est clair que c'est lié au stress. OK? Fait que je ne dis pas ça comme à la légère, puis c'est simple. Je le sais, donc c'est réglé. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'on a des ressources extraordinaires pour retourner constamment dans cette paix-là. Et c'est pour ça que Philippiens, Paul dans Philippiens va nous dire, ne vous inquiétez de rien, mais hein, faites connaître vos besoins à Dieu en prière. Allez dans la prière, parce que je vais aller contempler. Et je trouve ça fantastique de voir que ce que Dieu fait avec Job, c'est qu'il le console, il le guérit de son marasme spirituel avec la doctrine de la toute-puissance de Dieu. Probablement que quelle que soit l'épreuve que tu vis, si tu la vis mal, actuellement, cette épreuve-là, probablement que la doctrine de la toute-puissance de Dieu est suffisante pour te conduire dans la paix dans ton épreuve. Et je ne connais pas les épreuves auxquelles vous avez à faire face pour plusieurs d'entre vous. Deuxième élément, parce que je vais avoir le temps d'aller dans la pratique, la résurrection. J'aime ça que Paul Tripp prenne la résurrection comme la deuxième manifestation la plus claire, la plus évidente de la toute-puissance de Dieu. Parce que notre plus grand ennemi, c'est la mort. C'est la mort. Et une des choses qui est, un des aspects qui est extraordinaire avec la personne de Jésus-Christ, c'est que, je vais le dire comme ceci, Jésus-Christ, en s'incarnant, Dieu le Fils, rend Dieu tangible. La toute-puissance de Dieu, selon moi, ne peut pas être plus tangible pour nous que de dire « J'ai vaincu la mort. » J'ai vaincu la mort et donc ta résurrection à toi est assurée. Je trouvais ça vraiment intéressant de prendre ces deux éléments-là, la création puis la résurrection. La mort comme ennemi ultime, nous ne pouvons ni arrêter ni inverser la mort. On va tous y passer. À moins que le Seigneur revienne puis qu'on soit enlevé peut-être. La résurrection du Christ, 1 Corinthiens 15, 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Fait que, d'un côté, ce qui définit vraiment Dieu, c'est de dire qu'il est tout-puissant. Et d'un autre côté, toute notre foi ne sert à rien si la résurrection est fausse. La résurrection est un doigt qui pointe vers l'omnipotence de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Éphésiens 1, 19, la puissance de résurrection pour le croyant. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Et c'est cette puissance-là maintenant qui agit en nous. Cette puissance de vie par l'Esprit Saint. Ce matin, on a une matinée de baptême. On va célébrer des nouvelles naissances qui sont symbolisées par le baptême. Mais la nouvelle naissance, c'est l'Esprit Saint qui vient vivre en nous. C'est Dieu le Tout-Puissant qui vient vivre en nous. Celui qui a vaincu la mort, qui vient vivre en nous. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui vient vivre en nous. L'omnipotence de Dieu dans la vie quotidienne. Ça va? Est-ce que vous avez des questions juste sur l'omnipotence de Dieu? On va prendre un bon 15 minutes pour aller dans l'application. Ça va? Oui? Good. Qu'est-ce que ça implique maintenant dans notre quotidien? Bien, nous doutons souvent de la puissance de Dieu. Ça, c'est évident, on va tous être d'accord là-dessus. Pas en théorie, mais de toute évidence, on doute de la puissance de Dieu. Il y a des moments où on a arrêté de prier pour des gens autour de nous. Il y a des gens que vous considérez puis vous dites, je sais qu'en théorie, Dieu pourrait le sauver, mais je ne peux pas imaginer que Dieu peut le sauver, celui-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous pouvez penser, à qui vous pouvez penser, là, vous dites? Il y en a qui l'appelleraient de Donald, là. Celui-là, personne ne peut le sauver. Mais vous avez des gens autour de vous, vous connaissez, puis vous dites, moi, j'ai des gens autour de moi que j'aime énormément qui commencent à être drôlement vieux, là. Je ne sais pas s'il leur reste des jours, des mois ou des années, mais il n'en reste pas beaucoup d'un de ceux-là. Puis Dieu leur a beaucoup parlé, là. Je pense à une personne en particulier, là. Je peux identifier des dizaines de fois où Dieu a fait des choses incroyables pour lui parler. Comme répondre à mes prières pour envoyer un missionnaire lui parler pendant qu'il était à Istanbul, parce que je ne peux pas lui parler, là. Puis j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas, là. C'était à l'époque des lettres, du papier, là. Il est trop loin, là. Puis je priais. Puis Dieu lui envoie Guy Leduc. Puis Guy m'écrit, puis il dit, Yannick, est-ce que tu as un père qui s'appelle? On a découvert, on s'est rencontrés à l'ambassade à Istanbul. On a découvert qu'on avait été tous les deux initiés par le même ami à l'escalade sur glace. Il m'a invité à manger chez lui avec son épouse. Je leur annonçais l'Évangile. Alors, pas beaucoup d'excuses, le monsieur, quand il va se présenter devant Dieu, vous comprenez? Fait qu'à un moment donné, là, je suis comme, aïe, je ne sais pas si je crois que tu peux le sauver, Seigneur. Parce que celui-là, là, tu lui as donné beaucoup de chance. Il fut un temps où il enseignait dans l'église ici. J'ai des livres de théologie qui lui sont dédicacés. Dieu a donné beaucoup de chance. Nous doutons tous de la puissance de Dieu dans un domaine ou l'autre. Moi, personnellement, ça, c'est une illustration où j'ai des combats. Peut-être que vous doutez de la puissance de Dieu pour sauver vos enfants. C'est plus facile de prier pour le salut d'autres enfants que les vôtres. Peut-être. Il y a un an et demi, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, dans la famille de mon beau-frère, ma belle-sœur, de mon frère et de ma sœur, de mon frère et de ma belle-sœur, et dans notre famille, pas beaucoup de conversions chez nos enfants. Il y a un an et demi, j'ai dit, Seigneur, donne-moi-en un. Ça m'en prend un. Un sur huit. Il se fait baptiser ce matin. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Interpréter le monde à travers l'omnipotence de Dieu. Un des grands défis qu'on a, c'est que la culture dans laquelle on vit est imprégnée d'un naturalisme scientifique qui nie l'action souveraine de Dieu. La science, telle qu'on la conçoit en Occident, je vais dire quelque chose là, c'est très défendable ce que je vais dire, je n'ai pas le temps de le défendre ce matin. C'est très défendable de dire ceci. La science telle qu'on la conçoit en Occident est le fruit du christianisme. D'accord? Je n'ai pas le temps de le défendre. Je peux faire des petites recherches là-dessus. Ça se défend très, très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'amène à dire ça? C'est que lorsqu'un chrétien regarde l'univers, il dit « Ceci n'est pas un chaos absolu. Ceci a été créé par un être intelligent et donc c'est structuré et organisé. » Et donc, un chrétien scientifique, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à comprendre les lois que Dieu a mises en place pour que l'univers se tienne. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Là. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Maintenant, nous, on vit à une époque où, reconnaissant pour la science, l'être humain s'est dit « on n'a plus besoin de Dieu. Je suis Dieu. » Et donc, Dieu n'existe pas. C'est très enfantin comme raisonnement. C'est très léger comme raisonnement, mais c'est presque omniprésent dans la culture. Donc, tout ce que vous consommez comme produit culturel, la musique, des séries, des émissions, sont presque tous écrits par des gens qui croient dans une vision naturaliste scientifique du monde. Il n'y a personne derrière la création, il n'y a pas de création, il y a un univers accidentel qui est là, qui s'est auto-structuré avec le temps. Il est parti du chaos et est allé dans l'ordre. C'est un beau concept, ça. Il n'y a personne en physique qui défend cette idée-là. Mais on croit tous ça. On est parti du chaos, ça s'est tout ordonné. Tout va bien, Madame la Marquise. Mais l'univers dans lequel on évolue culturellement, c'est cet univers-là, d'accord? Nos enfants évoluent dans cet univers-là. Qui est, honnêtement, qui est facile à démonter. J'écoutais, si vous voulez écouter, je pense que c'est John Knox son nom. Si vous êtes un peu sur YouTube, allez écouter John Knox. C'est un apologète qui défend la foi. C'est un vieux monsieur, un British. Il est génial. Il est génial, puis il est très sensible, il est très humain. Il n'est pas arrogant dans sa défense de la foi. Je l'aime beaucoup. Puis il abordait la question, parce que là, quand tu parles de la toute-puissance de Dieu, tu te dis, bien, derrière ça, il y a la question, mais si Dieu est tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il y a autant de mal dans le monde si Dieu est aussi bon? Puis John Knox pose la question suivante. Il le fait avec beaucoup plus de douceur que je vais le faire en trois secondes. Là. C'est vrai que la question de la souffrance dans le monde, si Dieu est tout-puissant puis Dieu est amour, c'est une question très, très, très difficile. Mais il faut comprendre que cette question-là, si elle est très, très, très difficile, ne trouve sa solution que dans l'existence de Dieu. Parce que si Dieu n'existe pas, si la réalité de la souffrance dans le monde m'amène à dire que Dieu n'existe pas, bien, toute conception du mal dans le monde, si on est juste, si on est des scientifiques naturalistes, là, le bien et le mal, ça n'existe pas non plus. Ça n'existe pas, le bien et le mal. On vient du chaos, l'univers s'est organisé, puis on s'entend sur ce qui serait bien, mais fondamentalement, ce n'est pas bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux manger un être humain, demain, ce sera une vache, puis après, ce sera du céleri. Ce n'est pas bien ou c'est mal. Est-ce qu'on est tous d'accord pour manger un être humain? Oui, on peut manger un être humain. Le bien, le mal n'existe pas. Puisque Dieu n'existe pas, c'est que le chaos qui s'est organisé. Donc, Dieu est la meilleure explication et la meilleure solution à l'existence du bien et du mal. Parce que si Dieu n'existe pas, il n'y en a même pas de question. Donc, arrêtez de vous troubler avec le bien et le mal. C'est au plus fort la poche. C'est tout. Est-ce que vous me suivez? Le monde interprète l'univers avec une vision naturaliste scientifique. en réalité, ne devrait pas se poser des questions sur le bien et le mal si on n'est que de la matière. Et ceux qui l'assument le plus, c'est des régimes comme les régimes communistes. C'est eux qui l'assument le plus. En Chine, on gère la population comme un cheptel. J'ai une idée de ce que je veux produire pour le bien commun et je gère ma population. C'est ce qui fait que lorsque le régime s'est installé, ce sont des millions de personnes qui sont mortes de faim. Ce n'est pas des centaines de milliers, c'est des millions de personnes qui sont mortes de faim. En Union soviétique, on gérait, c'est de la matière qu'on gère, Dieu n'existe pas. On gère de la matière. Écoutez, si vous créez une entreprise, vous allez avoir des pertes, puis vous allez avoir des bonnes années, vous allez avoir des mauvaises années. Cette année, c'est une mauvaise année, on a perdu 3 millions de personnes. Mais l'année prochaine, on devrait réussir à faire mieux. C'est le matérialisme à sa plus grande expression. C'est la vision du monde qui nous entoure, la culture est faite dans ça. Et nous, on doit arriver là-dedans et dire non. Je crois en Dieu, je crois dans un Dieu tout-puissant qui est derrière tout l'univers, qui a créé toute chose. 1 Corinthiens 1:18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Je comprends que lorsque j'arrive puis j'annonce la croix, puis là les gens partent, puis là ils disent « Oui, mais attends un peu, il y a tellement de souffrance dans le monde, ça ne se peut pas que Dieu existe. » C'est parce qu'ils viennent de cet endroit-là où ils disent « Si Dieu existait, il n'y aurait pas de mal dans le monde. » Mais en même temps, je peux leur poser la question « Oui, mais est-ce que le mal existe si Dieu n'existe pas? » C'est très relatif, là. Mais nous, on sait que ce n'est pas relatif du tout. Mais si Dieu n'existe pas, c'est très relatif, le mal. Donc, on est constamment en train d'évoluer dans un monde qui est fou et qui pense que nous sommes fous, alors qu'on sait que la puissance de Dieu se trouve là dans la croix, parce que j'ai là la mort et la résurrection de Jésus qui manifestent toute la puissance et l'amour de Dieu. La vie chrétienne est impossible sans la puissance de Dieu. Donc, ce qu'on a vu, là, juste pour vous rappeler la mise en pratique, on doute facilement de la puissance de Dieu. Nous vivons dans un environnement culturel qui ne croit pas du tout même dans l'existence de Dieu ou qui veut se construire comme si Dieu n'existait pas. Peut-être qu'il existe, mais on va faire comme s'il n'était pas là parce que de toute façon, on ne peut pas le connaître. Troisièmement, la vie chrétienne est impossible sans la puissance de Dieu. Alors, tout l'Ancien Testament le démontre, mais je veux dire, Jésus le décrit lui-même. Il l'affirme lui-même. C'est impossible à l'homme de se sauver lui-même. Et donc, même une fois que tu es chrétien puis que tu es sauvé par grâce, si Dieu nous avait fait l'acte cruel de dire « Je vais te donner une chance. Une fois dans ta vie, je vais effacer tout ton passé, tous tes péchés. » C'est quand même très généreux, là. J'efface tout ton passé. À partir d'ici, tu es mieux de ne pas te planter. Je t'ai fait grâce. Vous comprenez? On est fait, là. La vie chrétienne est impossible sans la toute-puissance de Dieu parce qu'il faut un être qui est plus grand que moi, qui va surmonter ma faiblesse pour marcher dans la sainteté. Et peut-être que le plus grand test pour nous, c'est lorsqu'on doit pardonner à des gens à qui on ne veut pas pardonner. Pardonner à quelqu'un là, quand tu es pris avec de l'amertume, là. C'est bien installé, c'est bien ancré en dedans. Là. Je dis, Seigneur, j'y arriverai jamais. Là. Puis Dieu t'accorde la grâce de pardonner. Moi, je ne suis pas tellement porté vers l'amertume. Dieu merci. Je suis comme tous les êtres humains, il m'arrive d'être amer. Là. Des fois, j'entends un commentaire, puis je dis, oh, ça ne vient pas d'une belle place. Là, je vais dans la présence de Dieu, je dis, OK, j'ai de l'amertume. Mais tu sais, une amertume contre quelqu'un que tu traînes pendant des mois. Je l'ai vécu avant ma conversion, le divorce de mes parents, tout ça. Après ça, j'avais l'impression que je ne vivais pas ça. Puis à un certain moment donné, il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose dans l'église. Ça m'a pris au moins 1 an et demi. Avant de dire, j'avais décidé que je lui pardonnais 100 fois, mais de toute évidence, ce n'était pas réglé parce que ça revenait avec la même emprise à l'intérieur. Tu sais. Puis là, quand tu expérimentes, il n'y a plus d'emprise. C'est comme vraiment pardonner dans toutes les dimensions de ma vie. Il n'y a plus d'amertume. Quand je parle de lui... Si je parle de faiblesse, ça va être plus avec la compassion qu'avec du mépris. Moi, c'est toujours ça la clé. Hein? Quand, dans mon cœur puis dans mes paroles, je parle de quelqu'un, quand je suis capable de passer de la compassion et de l'amour, du mépris à la compassion et l'amour, je sais que l'amertume est passée. Je sais que c'est complètement pardonné. Je deviens bienveillant. Et ça, c'est mon test à moi. Il me reste 5 minutes. Donc, la vie chrétienne est absolument impossible sans la toute-puissance de Dieu, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est pour ça que Paul Tripp va dire, donc, si on comprend bien la toute-puissance de Dieu, il n'y a pas de défi dans nos vies qui devrait nous conduire à procrastiner. Si j'ai la conviction que Dieu veut que je fasse quelque chose, n'importe quoi, là, mon ménage, aller pelleter dehors, aller régler un conflit avec quelqu'un, attaquer des problèmes de santé, n'importe quoi. Si je suis convaincu que Dieu veut que je fasse face à ça et que je comprends bien la puissance de Dieu, il ne reste plus d'espace pour la procrastination, pour remettre à demain. Moi, je suis l'expert, c'est moi le meilleur à l'Église dans la procrastination. Je deviens tellement productif quand je procrastine. Là. Je te fais du ménage dans une maison. Quand je ne veux pas faire quelque chose, là, je vous dis, là, je ne vais pas comme aller me livrer à des péchés. Là. Je vais juste faire plein de choses, sauf ce que je suis supposé faire. Puis je suis très efficace dans ce temps-là, là, parce que je veux me donner bonne conscience. Fait que ça va être une journée très productive, mais je n'aurais pas fait ce que Dieu voulait que je fasse. Mais ça va être vraiment productif. Tout le monde va avoir l'impression que je travaille très, très fort. C'est vrai, mais je n'ai pas fait ce que Dieu attendait de moi, parce que je le sais. Je savais le matin ce que je devais attaquer. En réalité, si je crois dans la toute-puissance de Dieu, il n'y a pas de place pour ça, parce que l'esprit que Dieu m'a donné, ce n'est pas un esprit de timidité, de peur, de crainte. C'est un esprit de force. Bien saisir la toute-puissance de Dieu nous amène à abandonner les illusions d'autonomie, d'autosuffisance. Les chrétiens deviennent les gens les plus confiants parce qu'ils ne trouvent pas leur confiance en eux-mêmes. Les chrétiens devraient être, en principe, les gens les plus confiants parce que ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Ésaïe 40, verset 9, à la page 6. Soit dit en passant, vous allez voir, il y a des paginations dans le document qui sont complètement erronées, là. C'était chapitre 9 puis chapitre 10, ce n'était pas page 9, page 10. Ce n'est pas tout tiré de deux pages. Je suis désolé, c'est une erreur. Ésaïe 40, verset 9, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Maintenant, le problème, c'est les limites de notre foi. C'est qu'on ne croit pas dans la toute-puissance de Dieu. Vous allez dire, « Non, ce n'est pas ça, c'est que je ne crois pas qu'il m'aime vraiment. » OK, c'est un autre sujet. Mais c'est encore la foi. David face à Goliath, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » C'est clair qu'il avait l'air d'un fou, là. Je veux dire, ses frères se sont dit, « Bon, voilà, on vient de perdre notre frère aujourd'hui. Il va aller se faire tuer. » La différence, ce n'était pas la force de David, c'est la foi. Puis David l'énonce très, très bien ici. Il n'est pas en train de dire, « Faites-vous-en pas, j'ai battu un lion, j'ai battu un ours, un philistin, je suis capable de battre ça. » Non, ce n'est pas ça son argument. Et donc, nous qui sommes chrétiens depuis de nombreuses années, nous avons tous des milliers d'histoires qu'on pourrait raconter où Dieu a montré sa fidélité et sa puissance dans nos vies. Et donc, on devrait, devant les défis de cette semaine, c'est quoi, évoquez dans votre esprit, c'est quoi votre plus gros défi cette semaine? On va peut-être être pelleté la neige, je ne sais pas. C'est quoi votre plus gros défi cette semaine? Évoquez ça dans votre esprit. Parce que vous connaissez la fidélité de Dieu depuis, je vois plusieurs chrétiens, là, que ça fait quelques décennies que vous êtes chrétiens ici. Je ne vais pas dire que vous êtes vieux, là. Mais vous devriez faire exactement cet argument-là. Et l'Éternel qui m'a délivré tant de fois, depuis tant d'années, de tant d'épreuves, qui m'a donné la victoire devant tant d'épreuves, ne me délivrera-t-il pas cette semaine dans cette épreuve à laquelle je dois faire face? Parce qu'on connaît Dieu. Parce qu'on connaît Dieu. Maintenant, on n'aime pas toujours la manière dont la toute-puissance de Dieu s'opère dans nos vies. Il faut accepter que je suis entre les mains du Tout-Puissant. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que l'Éternel soit béni. n'est-ce pas? Il donne un exemple dans le contexte de la paternité, de la maternité. Et j'arrive à la conclusion, parce que je dois vraiment m'arrêter, je dois aller en arrière. Dieu va dire à Paul, dans 2 Corinthiens 12, 19, chez la page 7, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et là, ça, c'est la grande ironie dans laquelle on doit grandir. C'est merveilleux que nous soyons faibles. Et c'est extraordinaire qu'on prenne conscience de notre faiblesse. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut se tourner vers Dieu puis se confier dans l'être qui est tout puissant. Pas qui est plus puissant, qui est tout puissant. C'est merveilleux que Dieu nous ait créés faibles. Parce que c'est là que je peux faire ça. Des fois, je fais un parallèle, je termine avec ceci. Des fois, je dis, certains d'entre vous, vous arrêtez de suivre ce qui se passe dans le monde, dans les nouvelles, parce que vous dites, je ne suis pas capable. Ça me fait trop mal de voir ce qui se passe dans le monde. Puis moi, je vous dis, non, vous êtes supposé de continuer à regarder les nouvelles. La douleur que vous vivez, c'est le Saint-Esprit qui vous dit d'aller dans la prière. C'est un appel à la prière, ça. Les chrétiens ne sont pas appelés à fermer leurs yeux sur la souffrance dans le monde. Sont appelés à intercéder, à aller dans la prière. Mais c'est la même chose, c'est la même idée ici. Chaque fois que je suis confronté à ma faiblesse pour faire quelque chose, c'est l'opportunité qui m'est donnée de me tourner vers le Tout-Puissant pour me confier en Lui. Est-ce que ce n'est pas vrai de dire que ce qui est très dangereux pour nous, c'est de penser qu'on est capable? Donc, chaque fois que tu te sens faible, c'est une grâce que Dieu te fait. Maintenant, si ça te paralyse parce que tu ne vas pas vers Dieu, c'est que tu ne vas pas vers la toute-puissance de Dieu. Mais si toi, tu regardes les gens autour de toi et tu te dis, je ne suis pas fort comme lui, je ne suis pas bon comme lui, je ne suis pas capable comme lui, c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Et la comparaison que Paul va donner dans une de ses lettres, c'est avec le riche. Il va dire, le pauvre est béni parce qu'il sait qu'il a besoin de Dieu. L'humiliation du riche, c'est de réaliser que toutes ses richesses ne lui servent à rien. Que les gens le regardent avec admiration et que tout ça, c'est des mensonges. Parce qu'en réalité, ses richesses ne servent à rien. Et le riche qui comprend ça est humilié positivement devant Dieu. Donc, si tu trouves que tu es quelqu'un de très faible, puis tu regardes les gens autour de toi, puis tu dis, « Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné plus de talent, plus de capacité, plus de compétences? » Dieu t'a accordé une grâce qui devrait te conduire à te confier en lui puis dire, parce que tu voulais que je me confie en toi. Et là, je n'ai pas accès à un être plus grand que moi. J'ai accès à l'être tout-puissant. C'est vraiment glorieux. On termine. Seigneur notre Dieu, merci pour tes grâces, merci pour cette matinée de baptême, merci pour cette belle doctrine de la toute-puissance de Dieu, de l'omnipotence de Dieu. Tu es merveilleux. Seigneur, aide-nous à grandir, à vivre cette vérité-là, à vivre notre théologie, Seigneur, afin d'être en paix, afin d'être dans l'adoration dans les épreuves et afin de te glorifier lorsque les gens nous côtoient, lorsqu'ils vivent avec nous, plutôt qu'être des êtres complètement paralysés par l'anxiété. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Que Dieu vous bénisse.